chanteront le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission consacrée ce soir au pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'URSS, qui a eu d'autres appellations, on en reparlera. Et je voulais simplement, en introduction, avant de laisser toute la place à la parole avisée d'Annie Lacroix-Ry, qu'on va entendre ensuite, rappeler qu'il suffisait d'observer, pas besoin d'avoir des espions, pour voir la réalité du Reich à ce moment-là, depuis Moscou. Première chose, les communistes allemands étaient tous en prison depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir. Deuxième chose, le programme raciste du gouvernement nazi était clair. Il y avait des sous-hommes, en tête desquels on trouvait les juifs. Ensuite, on trouvait les gitans. Ensuite, on trouvait les slaves. Alors, si vous savez bien ce que ça veut dire, les slaves, ça commence en Pologne et ça va jusqu'à l'extrémité de la Russie. Enfin, au plan des faits, à partir de Munich, il s'est passé la chose suivante, et même avant. D'une part, l'Allemagne nazie avait annexé l'Autriche. D'autre part, après Munich, elle avait décidé d'envahir la Tchécoslovaquie, ce qu'elle avait fait. Troisième chose, l'Allemagne nazie, accompagnée par l'Italie fasciste, avait participé militairement au renversement de la République espagnole. Souvenez-vous de Guernica, si ça peut vous évoquer quelque chose. Quand on savait tout ça à Moscou, et il n'y avait pas besoin d'être dans les services secrets, il suffisait de lire le journal, on savait très bien qu'il n'y avait pas à négocier quoi que ce soit d'accord entre les deux gouvernements, et donc il faut mettre un terme à cette légende de Staline embrassant Hitler parce qu'ils étaient d'accord. Non, Staline se méfiait profondément, et à juste titre, et l'Union soviétique avec lui, de l'Allemagne nazie, et il savait très bien ce qui était en préparation, c'est-à-dire le non-respect du pacte qui était signé le 23 août 1939, qui serait violé en pleine conscience le 22 juin 1941, qui commencerait l'invasion de l'URSS. Voilà ce que je voulais dire pour bien clarifier les choses. La vision Staline égale Hitler est une vision stupide que tous ces faits élémentaires qui suffit de lire sans être militant en quoi que ce soit permettent de réduire à rien du tout. Mais réduire à rien du tout, ce sera encore beaucoup mieux fait que par moi, par Annie Lacroix, qu'on va écouter à ce sujet avec toute la connaissance de l'histoire qu'elle a sur cette période. Merci Sidi d'être avec nous et merci aux auditeurs d'écouter sagement, tranquillement, cette longue explication d'Annie Lacroix-Ry. À très bientôt. Bonjour Annie Lacroix-Ry. Il est question aujourd'hui d'un problème. Alors, on dit souvent que l'opinion publique française s'intéresse fort peu aux questions internationales, que c'est lointain, que c'est moins bien traité, que ça n'est pas partie de la culture. Et là, on va être confronté à un événement qui touche deux États étrangers et dont les conséquences ont été quasiment immédiates sur le territoire national et de grande ampleur. C'est ce qu'on a appelé, alors il y a plusieurs noms déjà, rien que cette qualification pose question. On peut parler des deux signataires de cet accord, l'un représentant l'Allemagne nazie, l'autre représentant l'URSS, donc M. von Ribbentrop d'un côté, M. Molotov de l'autre. Mmh. On peut parler de pacte germano-soviétique, c'est déjà un peu plus haut dans la hiérarchie des actes diplomatiques, mais ça, est-ce que c'est vraiment à ce niveau-là la question se pose? Mais il est clair que cet événement, donc extérieur, hein, qui se signe donc dans une capitale étrangère, a un impact considérable, et en fait, il met un terme à une période où il est
est plutôt un point culminant d'une période et il inaugure un basculement qui va se prolonger dans les moments qui viennent. Donc on va essayer de resituer, enfin tu vas resituer dans un mouvement historique plus lent. Pourquoi cet événement touchant l'Allemagne nazie d'un côté, l'URSS de l'autre, tout d'un coup bouleverse la vie politique nationale au point de remettre en cause par exemple la représentation parlementaire. Un petit détail au passage, mais c'en est un parmi beaucoup d'autres. Donc je te laisse nous reconstruire le décor de cette scène qui est un peu une scène clé, c'est le l'acte 3. Qu'est-ce qui s'est passé avant?
Alors, ce pacte de non-agression germano-soviétique, je dirais que le combat commence en effet dans sa dénomination, puisque je rappelle qu'il s'agit en effet d'un pacte, non d'un pacte d'alliance, mais d'un pacte de non-agression que, en règle générale, on appelle en France, depuis très longtemps, et je dirais plus que jamais aujourd'hui, pacte germano-soviétique, parce que pacte germano-soviétique, c'est une expression utile, bien commode, pour laisser immédiatement entendre, avant développement, qu'il s'agit d'une alliance en bonne et due forme entre, d'une part, le Reich hitlérien et, d'autre part, l'Union soviétique stalinienne. Alors, c'est un thème intéressant, je répondrai après à la question que tu viens de poser, c'est-à-dire la question de la chronologie ou de vraiment de la place dans le temps de cet événement qui a eu des répercussions, je dirais, immédiate, même pas à quelques jours près, immédiate, hein, et qui semble en avoir encore, puisque je dirais que c'est un des grands thèmes de ce qu'on peut appeler, non pas l'histoire, mais la propagande d'aujourd'hui. Et alors, c'est, je dois dire, un thème d'autant plus intéressant que c'est en fait une question historique qui a eu un traitement assez rapide. Outre évidemment que la chronologie quasi immédiate lui a donné vraisemblance à la réalité du pacte de non-agression, c'est-à-dire les conditions d'engagement de la Deuxième Guerre mondiale et l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque du 22 juin 1941 contre l'Union soviétique, outre le fait que l'Union soviétique était apparue par son comportement militaire entre 1941 et 1945 comme le véritable vainqueur militaire de la Deuxième Guerre mondiale, et que ça semblait laisser peu d'espace à la thèse que ce vainqueur de l'Allemagne nazie avait vraiment cherché à pactiser du 23 août 1939 au 22 juin 1941 avec l'Allemagne hitlérienne, il se trouve que très très vite des documents ont été publiés, très vite, outre des documents publiés pratiquement sur le champ par les soviétiques, mais on pourra, y compris d'ailleurs dans des langues étrangères, mais il est vrai dans des conditions où en France ils n'étaient pas consultables vu la conjoncture, mais ils ont été consultables évidemment dès la libération, où la documentation soviétique n'était pas interdite d'entrée, je le dis parce qu'elle l'est devenue très vite. Beaucoup d'archives occidentales ont été partiellement publiées, en particulier à la fin des années 40 ou au début des années 1950, des archives britanniques sur la période, sur l'entre-deux-guerres en général et sur la période 36-39 en particulier, d'une part, et les archives américaines. Et la publication en langue étrangère des archives allemandes, des archives de l'Auswärtigesamt du ministère des Affaires étrangères. Tout ça, je répète, archives britanniques, archives américaines, publication dès 1950 des premiers volumes des archives extérieures allemandes. Tout ça permettait à des personnes de bonne foi, et encore je ne vais pas parler des contemporains pas malveillants à l'égard de l'Union soviétique qui dès 1939 avait fait une analyse à peu près correcte. Tout ça, pourrait-on dire, aurait dû régler la question pratiquement depuis les années 1950. Il faut ajouter à ça que, en ce qui concerne en particulier la France, qui a été la bonne dernière dans la libération de ses sources, on avait aussi les moyens, et pour les archives extérieures d'ailleurs, bien avant 1999, on avait les moyens de savoir beaucoup de choses. Or, c'est un thème sur lequel non seulement il n'est jamais revenu, on ne revient pas en France, mais c'est un thème de plus en plus porteur parce que la seule dénomination de pacte germano-soviétique le montre, c'est une espèce de bénédiction dans cette période où, pour les élèves du secondaire et pour les étudiants d'ailleurs, il y a maintenant, et même pour les élèves du primaire, il y a maintenant une équivalence absolue entre nazisme et communisme, et par conséquent, on ne voit pas pourquoi on renoncerait à ce filon absolument inépuisable. Celui-là, il ne ressemble ni à l'or ni au pétrole, il est vraiment... il se revivifie en permanence.
Et on peut faire pacte Hitler-Staline pour
Oui, pacte germano-soviétique ou pacte Hitler-Staline, encore mieux. D'ailleurs, il est caractéristique, il est tout à fait caractéristique qu'un ouvrage paru en 1998 par un historien qui n'est pas du tout spécialiste d'ailleurs des questions extérieures, qui a été dans un temps spécialiste du socialisme de la fin du 19e siècle, on fera observer naturellement que n'importe quel historien peut s'intéresser à la question qui lui convient, mais enfin c'est tout de même intéressant. Yves Santamaria a publié en 1998 un ouvrage qui s'appelle 1939, le pacte germano-soviétique, qui était un ouvrage d'ailleurs digne de la période actuelle, mais enfin c'est vrai que ce serait même encore mieux aujourd'hui de lui donner le terme le pacte Hitler-Staline. Bon, il est vrai que l'Union soviétique a une série de casseroles ou de, je dirais même, de batteries inépuisables et qu'on a du mal à trouver, je dirais, la plus grave ou la plus lourde de ces casseroles. Mais enfin, ça, c'est quand même une super casserole. Alors, cette super casserole qui a eu des effets immédiats, pourquoi d'abord a-t-elle eu des effets si immédiats? On y reviendra après, parce que avant de parler des effets immédiats, je vais quand même dire d'où vient le pacte de non-agression. En fait, il s'agit de quelque chose qui devrait laisser beaucoup de calme et qui nous met dans la furie parce que, comme je l'ai dit, c'est un filon inépuisable contre l'URSS. Alors qu'on pouvait penser que, sur le plan historique, le règlement de la question, ma foi... aurait fait disparaître ce brûlot. Eh bien, pas du tout. Alors, d'abord, je rappelle que le pacte de non-agression, qui date du 23 août 1939, intervient dans la mythologie stalinienne criminelle comme une espèce d'apothéose d'une série de crimes abominables, puisque Staline n'est qu'un criminel contre son peuple, criminel contre tout ou partie de son peuple. Finalement, avec le pacte germano-soviétique, il fait tout ce qu'il faut pour remporter la défaite dans la guerre future. D'ailleurs, manifestement, nous expliquons, il ne s'occupe pas de la guerre future puisque il aurait été très surpris par l'attaque du 22 juin 1941, qu'il aurait prostré, qu'il aurait arraché à son bureau et qu'il lui aurait fait passer quelques jours abominables avant que, par je ne sais quel miracle, il ne revînt à ce qui semblait la raison et qu'il prononça le 3 juillet 1941, un discours appelant à la mobilisation de son peuple. 22 juin 1941, 3 juillet, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce zozo qui a quand même mis plus de 8 jours avant de réagir. Bon, quelques petits éléments quand même sur la succession de crimes, puisque Staline aurait fait des crimes évidemment dès sa victoire de 1927, et puis alors que il aurait multiplié ses crimes, je dirais, particulièrement à l'époque de la venue aux affaires des Hitlériens, puisque ce serait une série de crimes que ceux qui auraient été accumulés entre 1933 et 1939, avec pourfare la famine génocidaire en Ukraine, qui aurait vidé l'Ukraine de la moitié au moins de sa population, de sorte qu'on se demande ce qui en restait quand les troupes allemandes sont entrées en Ukraine, que comme il redoutait tous les rivaux, il avait liquidé son armée en quelque sorte, tout simplement parce qu'il voulait se débarrasser d'un rival qui était un grand personnage, un certain maréchal Tukhachevski, qui seul, on jurait les Allemands, après sa chute, avait réussi à établir une armée rouge remarquable. C'était d'ailleurs une espèce de nouvelle extraordinaire, parce que depuis la naissance de l'Union soviétique jusque-là, on avait toujours expliqué que l'armée rouge ne valait pas un clou. Et enfin, depuis la naissance de la Russie soviétique, ou depuis l'hiver 17-18, on avait toujours dit que l'armée rouge ne valait rien, et que tout d'un coup, en mai-juin 1937, les Allemands disaient qu'elle était tout à fait remarquable, parce que Tukhachevski avait fait une espèce d'instrument remarquable. On se demande bien d'ailleurs pourquoi publiquement les Allemands étaient si admiratifs envers cette armée soviétique. Et puis alors après ça, ou entre ça, il avait trahi les Espagnols, puisque en fait il les avait soutenus, les républicains espagnols, du bout des lèvres, et même il les avait volés, parce qu'on a quand même expliqué qu'il avait volé l'or de la République. Alors c'est une question un petit peu différente, mais j'invite fortement les auditeurs à regarder mon ouvrage industriel et banquier sous l'occupation. Ils verront que si le vol soviétique de l'or républicain espagnol n'est pas attesté, en revanche, il y a une chose qui est très tout à fait attestée, qui est la remise par la France volontaire des 200 tonnes d'or de la Belgique que la Belgique avait confié à sa bonne garde pour faire échapper ses réserves de la Banque nationale de Belgique à la mainmise de la Reichsbank. Bien. Donc, après tous ces forfaits, après une terreur qui ne devait qu'à la folie délirante de Staline, ce qu'on appelle les grands procès, je rappelle quand même pour mémoire d'ailleurs que les grands procès, ça représente une accusation contre 75 personnes, après les grands procès qui avaient inventé des accusations complètement fantaisistes contre de braves gens qui ne pensaient qu'au patriotisme soviétique, eh bien, grand procès donc, terreur à plusieurs millions de morts, et patatras par là-dessus, alliance avec les nazis. Bon, ça continue, je dirais que ça ne fait que s'aggraver en France, où d'ailleurs, depuis 20 ans, le livre de Santa Maria fait autorité, qui, je dois le dire, n'est fondé sur la consultation d'aucune archive, ni française, ni anglaise, ni américaine, ni soviétique, ni allemande, mais qui fait autorité, et d'ailleurs même certains historiens qui, eux, ont vu des archives, expliquent finalement que Staline n'a fait que des horreurs en matière de politique extérieure et de défense. Je pense en particulier à une histoire de Madame Sabine Dulin, qui évidemment adore Litvinov, le ministre, le commissaire aux affaires étrangères de Staline de 1930 à 1939, et qu'il adore surtout parce qu'il se trouve que le 3 mai 1939, il est remplacé par Molotov, qui est, je dirais, dans la saga ou dans le conte horrifiant sur l'Union soviétique, qui arrive juste en dessous de Staline, hein, parce que Molotov est un crétin, germanophile, ignorant l'histoire, l'usage des langues, enfin une véritable caricature, et il est juste en dessous de Staline dans le palmarès des abominations.
On peut en juger en lisant ses mémoires qui ont été publiés en français.
Voilà, ses mémoires, un peu curieusement d'ailleurs, on s'en félicite, qui en 1995 ont été publiés en français. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, tant mieux, parce que ce sont des mémoires très intéressantes et je recommande vivement, aux auditeurs de lire cet ouvrage traduit en français en 1995, qui sont des mémoires d'ailleurs posthumes parce qu'ils ont été transcrits par un fils de grand militaire et grand héros soviétique tardivement. Ils verront à la réflexion sur ces mémoires, à la grande franchise de Molotov. Ce Molotov dont les obsèques ont été organisées avec la seule somme qu'il eut conservée de sa longue gestion politique, c'est-à-dire 500 roubles, qui atteste évidemment l'énorme corruption de l'appareil soviétique, comme on nous avait appris pendant, ça c'est pour les vieilles générations, ou pour les jeunes, parce que les jeunes ignorent. À l'époque, on nous expliquait que la nomenklatura soviétique s'était gobergée dans le luxe et la fornication, voilà. Et donc, surtout, lisez les mémoires de Molotov, qui, avec les archives, tente à rétablir quelques vérités. Alors, ce pacte de non-agression germano-soviétique, évidemment, on ne peut parler ni de sa date, ni de ses effets apparents de foudre, sans avoir expliqué d'où il vient. Or, d'où il vient, il suffit de se pencher sur les archives extérieures de n'importe quelle puissance, ou je dirais sans doute d'ailleurs de pays modestes, mais moi il se trouve que je travaille... ou sur la question, les historiens ont tendance à travailler sur les archives des grandes puissances. Beaucoup d'historiens ont travaillé sur les archives soviétiques. Moi, j'ai travaillé sur les archives occidentales. On arrive au même résultat. Et pourtant, on n'est d'ailleurs pas politiquement sur la même longueur d'onde, ce qui montre qu'il reste des traditions de sérieux historiques que j'aimerais bien voir conservées en France, mais qu'ils ne sont pas, et il se trouve en effet que le pacte de non-agression n'est pas du tout une surprise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du pacte de non-agression germano-soviétique sans expliquer que c'est une affaire qui n'a surpris personne, en tout cas qui n'a surpris personne en haut lieu, et qui a surpris d'autant moins en haut lieu qu'elle s'inscrit, je dirais, dans la longue histoire de la détestation allemande ou de l'impérialisme allemand à partir de son déploiement à la fin du XIXe siècle. Elle s'inscrit dans cette histoire de l'impérialisme allemand qui aspire à une puissance considérable, qui, je ne dirais pas, est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, mais qui voisine en matière de bœuf avec un jeune impérialisme qui lui aussi allait dans l'ongle, c'est-à-dire l'impérialisme américain, sans parler de l'impérialisme japonais, et que cet impérialisme du Deuxième Reich, cet impérialisme incarné déjà par Bismarck sur sa fin et par Guillaume II, c'est un impérialisme dont l'expansion est en toutes directions, et notamment entre ce partage du point de vue de ses ambitions entre l'expansion à l'est et l'expansion à l'ouest. Guillaume II a un véritable discours obsessionnel sur les Slaves d'un côté et les Gaulois de l'autre, ou les Russes et les Gaulois, et il explique que les Russes, les Slaves et les Gaulois veulent encercler l'Allemagne, etc. Alors, évidemment, dans ce développement d'impérialisme allemand, il y a eu une période de réaction, et cette période de réaction, elle a été celle consacrée à l'émergence de ce qu'on appelle l'alliance franco-russe. Mm-hmm. Hein, cette alliance franco-russe qui a fait que nos dirigeants de la fin du 19e et du début du 20e siècle, dirons-nous des années de 1870 et surtout des années 90 du 19e siècle jusqu'à 1914 et un peu au-delà, nos dirigeants français ont trouvé tout à fait opportun, je dirais pour des raisons stratégiques et qui étaient exemptes d'arrière-pensée intérieure, de s'allier avec un régime absolument abominable, qui était le régime tsariste, qui multipliait, qui menait une véritable guerre contre son peuple, et notamment contre les minorités de son peuple, en y comptant les juifs, mais je dirais sur une base raisonnable, qui reste une base raisonnable à chaque moment de l'histoire depuis la fin du XIXe siècle, c'est que comme l'Allemagne impérialiste montrait qu'elle était prête à tout pour aller conquérir du terrain à l'est, à l'ouest, et même au sud, c'était très important, mais enfin ça passait aussi par une agression contre l'ouest et l'est, l'Allemagne, il y avait intérêt pour l'est et l'ouest à rencontrer les intentions en l'obligeant à diviser ses forces militaires. C'est ce qui a inspiré ce qu'on appelle l'alliance de revers et qui a été à l'origine de l'alliance franco-russe à partir de 1892, régulièrement entretenue, dans des conditions que ne troublaient pas les pratiques tout à fait inconvenantes et scandaleuses de l'État russe, que par ailleurs l'impérialisme français gavait de crédit, puisque je rappelle que c'est la période reine de la persécution des minorités, en particulier des pogroms anti-juifs, dont celui d'Odessa qui n'est qu'un des nombreux, mais enfin un spectaculaire en 1903. Tout ça n'empêchait pas l'extraordinaire propagande en faveur l'alliance franco-russe, qui, on le sait d'ailleurs, a été conjuguée à toutes les sauces, même celle des desserts et des entremets préparés, hein, puisque la firme franco-russe, la marque franco-russe qui n'existe plus, moi je l'ai encore connue pendant mon enfance, voilà, franco-soviétique, non mais franco-russe, oui. C'est-à-dire qu'on vénérait la presse, y compris la presse pourrie, la presse arrosée par l'argent que prêtait la France à la Russie, permettait que la presse fût absolument enthousiaste sur les vertus de la Russie, et ma foi, ces vertus de la Russie qui, quels que soient les défauts abominables du régime tsariste, ont été quand même démontrées par la Première Guerre mondiale, car je le rappelle, oui, si la France n'a pas été envahie, ça n'est pas, et les Anglais le reconnaissaient très volontiers, avec grande franchise, comme Van Sittart en 1939, si la France n'a pas été envahie en 1939, ça n'est assurément pas grâce à la compétence de ces militaires qui ont eu un comportement jusqu'en 1915, et pour ne pas parler d'après, littéralement abominable, et qui ont cédé, ça n'est pas donc à cause des taxis de la Marne, c'est à cause du double front.
Du deuxième front.
C'est-à-dire que l'Allemagne a dû diviser ses divisions en deux, et répartir ses divisions en deux, et que la France n'a eu à enregistrer que la moitié des forces russes, des forces allemandes, tandis que les Russes, même s'ils remportaient, même s'ils essuyaient des défaites, avaient contenu, évidemment, la pression sur la France. C'est ça, je dirais, qui est la marque d'une alliance de revers stratégique, et je dirais, qui est simplement une question d'évaluation des capacités de l'impérialisme à assurer son expansion. S'il y a un impérialisme allemand, et si cet impérialisme allemand est un impérialisme agressif, et il l'a été, d'ailleurs il le demeure, il est clair que la France et la Russie n'ont aucune autre solution de rechange dans une perspective de conflit généralisé que d'unir leurs forces, qu'elles s'aiment ou qu'elles se détestent. Ça, c'est une donnée consubstantielle à la réalité géostratégique et à la nature de l'impérialisme. S'il n'y avait pas d'impérialisme agressif, la question ne se poserait pas. Mais la question se pose objectivement depuis la fin du 19e siècle. Voilà. Alors voilà la réalité. Alors, me dira-t-on, la France, elle a pratiqué l'alliance de revers. Bon, alors ça, c'est une plaisanterie. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est qu'on a à partir de 1917 et surtout du début de 1918, parce que comme la révolution date de novembre 17, il faut le temps quand même, les quelques jours ou quelques semaines, pour que l'impérialisme se organise ses forces et donc l'agression contre la jeune Russie commence au tournant de 1917, disons janvier 1918. Dans une conjoncture pareille, il faut quand même noter que la Russie, confrontée à l'impérialisme allemand et confrontée à l'impérialisme allemand, bien qu'elle se retire du conflit dans des conditions au moins aussi graves que le front de l'Ouest, puisqu'elle continue à être agressée par l'Allemagne, que la Russie de Lénine a immédiatement proposé à ce qu'on appelait l'entente, dont la Russie avait fait partie, aux alliés, de se retourner ensemble contre les Allemands. Il faut le dire, c'est attesté par les sources, ça ne fait aucun doute. Mais que, bien entendu, la priorité change. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les soviets occupent le pouvoir, la question ne se posera plus jamais en termes stratégiques et en termes de défense des frontières. Elle s'opposera d'un tout autre point de vue, c'est-à-dire, finalement, le danger militaire est infiniment moins grave que le danger d'une modification des structures, que la perte subie par la socialisation de l'économie soviétique qui coûte aux impérialismes tous les investissements considérables qui ont été consentis. Et qu'on est donc dans une situation de déséquilibre de ce point de vue dès 1918, où la jeune Russie soviétique, qui ne s'appelle pas encore Union soviétique, puisqu'il faut, attendre décembre 1922 pour qu'elle prenne ce nom, mais que la jeune Russie soviétique n'a jamais varié de l'idée qu'il fallait une défense organisée, coordonnée de revers contre l'impérialisme allemand. Et c'est une différence, c'est la différence majeure entre, d'une part, la Russie et, d'autre part, les deux autres puissances théoriques qui avaient passé, je dis théorique ou pratique, parce que qui avaient passé une alliance avec la Russie, parce que l'élément le plus solide était l'alliance franco-russe, et les Anglais s'y étaient amarrés de plus ou moins bon gré, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que leur conflit avec l'impérialisme russe en particulier leur conflit en Asie centrale, était devenu un peu moins important que le conflit qui les menaçait directement, c'est-à-dire celui d'une incursion allemande, non seulement contre l'Angleterre, mais contre tout l'empire de l'Angleterre, et par conséquent, à partir de... Il a fallu quand même attendre 1907 pour que l'Angleterre consentît une sorte de compromis sur une question vitale, c'est-à-dire le contentieux en Iran, hein, parce qu'il ne faut pas croire que le contentieux en Iran, le contentieux pétrolier en Iran, eût été dû le moins du monde à la victoire des bolcheviques en novembre 1917, mais qu'à partir de 1907, de mauvaise grâce, de très mauvaise grâce, l'Angleterre s'engage dans cette alliance qui devient une alliance tripartite et qui est renouvelée en 1914. Donc en 1914, il y a une alliance tripartite. Et je le répète, cette alliance tripartite, c'est celle que Lénine demande de maintenir, y compris d'ailleurs avec les États-Unis, parce qu'il propose que tous les belligérants contre l'Allemagne s'unissent contre l'Allemagne, et naturellement il n'est pas entendu. Alors dira-t-on, ben ma foi, après ça disparaît, et puis bien entendu, du temps de cet infâme Staline, ça disparaît tout à fait, puisqu'il paraît que Staline, en plus, comme Molotov, était germanophile. Ça n'a pas du tout disparu. Il faut le dire. Alors, moi j'ai dit une chose qui est attestée par les sources, hein, on peut me lire, on peut lire le choix de la défaite, on peut lire Dominique Avici, puisque pour le choix de la défaite, j'ai fait évidemment un retour en arrière pour essayer de démontrer que les années 1930 empruntaient beaucoup, bien entendu, à la décennie antérieure, c'est-à-dire essayer de voir ce que les soviétiques avaient fait en matière d'alliance de revers, tandis que la France établissait, elle aussi, théoriquement, une alliance de revers. Elle n'avait plus d'alliés russes puisqu'elle n'en voulait plus, bien qu'il fût sollicitant, mais après tout, dira-t-on, elle avait une alliance de revers. Alors, c'est pas le temps ici, mais je l'ai fait dans le choix de la défaite, de démontrer le caractère tout à fait artificiel de cette alliance de revers, non pas d'ailleurs qu'elle fût entièrement dépourvue d'efficacité, puisque les jeunes alliés, les alliés de la France, qui avaient tout gagné à sa victoire, beaucoup gagné à sa victoire ou tout gagné à sa victoire, je pense à ce qu'on appelle au sens propre les États successeurs, successeurs de l'Empire austro-hongrois, devaient leur naissance à la victoire française. Et on nous explique évidemment qu'à partir de 1920, des années 1920, la France a bâti quelque chose qui est à peu près équivalent. Elle aurait une alliance qui se serait construite avec les États ayant bénéficié de sa victoire, la Serbie devenue la Yougoslavie, la Roumanie grandit, et les États successeurs, et l'État successeur par définition, je dirais, entièrement État successeur, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie qui n'existe pas, qui est entièrement fondue dans l'Empire austro-hongrois, et puis elle aurait gagné une alliée polonaise, et puis tout ça aurait été très bien, qui n'existe, je le rappelle, également que par la victoire française, puisque la Pologne est reconstituée sur la base de cette alliance en 1918. Mais c'est une alliance. Alors, je renvoie les auditeurs à mon ouvrage et à d'autres ouvrages qui figurent dans la bibliographie. C'est une alliance, je dirais, qui n'a de solide, et pas longtemps, que la partie tchécoslovaque, parce que elle ne représente quasi rien pour le reste. Elle est, en quelque sorte, elle est mitée, particulièrement du côté de la Pologne d'ailleurs, qui a une armée nullissime, tellement nullissime que la Pologne, quand elle attaque la jeune Russie soviétique en 1920, se fait attaquer jusque dans les faubourgs de Varsovie en défense par les soviétiques. Et par conséquent, ne parlons pas de la Pologne, qu'évidemment, on nous met toujours dans les gencives, parce que cette merveilleuse Pologne aurait paré à tout. Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est que de 1919 jusqu'à 1939 et à nos jours, puisque maintenant c'est répercuté par les historiens bien pensants, les forces, les élites françaises, toutes catégories confondues, et pour commencer par les plus importantes, les élites financières, les élites politiques et les élites militaires, ont menti. C'est-à-dire, on laissait croire à la population, alors je mentionne aussi les journalistes parce qu'ils étaient payés pour le dire, puisque c'était leur mission, ils ont menti à leur population en laissant croire qu'il y avait une alliance de revers, qu'ils ont vidé, même là où elle existait, puisque j'ai démontré par exemple que, contre d'ailleurs les efforts considérables de l'attaché militaire Fauché, brave militaire et brave patriote qui ne voulait pas que les frontières françaises fussent franchies, à l'exception de Fauché, nul au sein des élites dirigeantes ne croyait même à l'alliance tchécoslovaque, puisqu'il était question en 1928-29 de faire partir la délégation militaire française de Tchécoslovaquie, et que c'est Fauché qui a tellement tonné et tellement montré que si on n'avait plus de mission militaire en Tchécoslovaquie, on avouait que jamais on ne ferait une défense commune, qu'il a dirigé une organisation fantôme de 1929-30 à 1938. Il faut le dire, et moi je l'ai démontré, archives françaises à l'appui et archives allemandes à l'appui. Et travaux divers. Bon. C'était la seule solide. Parce que la Tchécoslovaquie avait une armée, parce que elle avait une armée qui avait une certaine substance, parce que cet empire de Schneider, c'est-à-dire d'un des pivots du comité des forges, avait été entièrement aligné sur la défense française, parce que elle avait une zone montagneuse remarquable qui en plus s'inscrivait dans une réalité une réalité qui est celle que quand on contrôle le plateau de Bohême, on contrôle toute l'Europe, hein. C'est bien le sens d'ailleurs de la défaite autrichienne de Sadova et de la victoire prussienne de Sadova, que de démontrer que quand on tient la Bohême, on tient l'Europe. Et donc, les armements français, Schneider, la construction par Schneider de l'ensemble de l'armement économique, enfin des armements, la possession de Skoda, c'est-à-dire du gros fournisseur, de l'équivalent autrichien de Krupp, tout ça donnait à la Tchécoslovaquie, théoriquement, évidemment, une importance militaire pour la France. La Tchécoslovaquie, sous la houlette de Schneider, qui avait au sens propre contribué à fixer ses frontières, c'est intéressant d'ailleurs, à l'époque du pacte, non pas du pacte germano-soviétique, mais de Munich, il faut savoir que c'est Schneider qui a inclus Teschen en Tchécoslovaquie. On a une thèse américaine qui l'a démontré, d'un monsieur qui s'appelle Segal, mais la thèse n'a jamais été au sens propre imprimée, elle est dactylographiée. La thèse de Segal montre que c'est Schneider, pour des raisons financières et politico-financières, qui a fait attribuer Teschen à la Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, Teschen était une zone disputée entre les Polonais et les Tchécoslovaques, et à l'époque, les mineurs polonais étaient agités, tandis que la classe ouvrière et les métallos, c'était un bassin charbonnier et métallurgique. Schneider a trouvé qu'il était beaucoup mieux de l'attribuer à la Tchécoslovaquie, parce que les métallos tchécoslovaques se tenaient tranquilles, alors que dans la zone qui allait devenir la zone frontière, les mineurs polonais étaient eux agités. Je le dis parce que c'est ce territoire de Teschen que le vautour ou la hyène, le vautour polonais ou la hyène polonaise a osé arracher à la Tchécoslovaquie, apporté sur un plateau par la Wehrmacht en début octobre 1938, c'est-à-dire au lendemain immédiat de la conférence de Munich. Et donc, on se retrouve avec une situation militaire de la France qui ne ressemble en rien à une alliance de revers, d'autant plus que la France a elle-même sacrifié la Tchécoslovaquie. Et puis, ma foi, dans les années 20, la jeune Russie soviétique montre, ça je l'ai montré en particulier dans un ouvrage qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich », où j'étudie beaucoup les rapports entre l'Est et l'Ouest, c'est donc dès les années 1920 que la jeune Russie soviétique qui quémande sa reconnaissance fait des tas de propositions intéressantes à la France, en particulier en matière de d'échanges, d'alliances, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons, avec les raisons commerciales, mais tout à fait inefficientes, tant la grande bourgeoisie française haïssait l'Union soviétique, c'est une des raisons pour lesquelles Herriot, devenu ministre des Affaires étrangères et Premier ministre après les élections du cartel des gauches en mai 1924, a reconnu en octobre 1924 l'Union soviétique. Et il l'a reconnu dans des termes, moi je l'ai montré sur la base des archives du Quai d'Orsay, où se lisait de manière très claire le souci, bah, ma foi, de pouvoir compter sur les réserves russes un de ces jours encore. Ça n'a eu aucune influence parce que, d'abord, Herriot ne s'est jamais donné, n'a jamais eu les moyens de sa politique théorique, et que la haine antisoviétique était en France tellement effrayante dans les classes dirigeantes que n'importe qui aurait pu faire le pied au mur. Je le répète, depuis janvier 1918, jamais la perspective d'une alliance de revers n'a été envisagée par les milieux dirigeants français. Alors ma foi, les soviétiques... voilà, continue depuis les années 1920 à proposer, parce que c'est né de l'époque léniniste, la ligne de relations normales entre l'Ouest capitaliste et la Russie soviétique, c'est-à-dire de coexistence pacifique. La coexistence pacifique date pas de l'après-mort de Staline. La coexistence pacifique, elle est proposée par Lénine tout de suite. Et elle n'a jamais été rejetée par aucun dirigeant soviétique, c'est-à-dire pas par Staline. Bon. Et donc,
il n'y a aucune critique pour la participation française à la... la guerre civile, donc à l'envoi de troupes contre le régime.
Ah bah alors là, n'en parlons pas, l'Union soviétique est une espèce de caricature d'État qui fait semblant de n'avoir aucune mémoire. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais pendant que la jeune Russie soviétique proposait ses services pour œuvrer en commun contre l'impérialisme allemand, qui, il est vrai, lui faisait beaucoup de mal sur le front est de l'Allemagne, 14 puissances étaient rentrées en Russie soviétique sans déclaration de guerre, dans lesquelles, je le rappelle, se trouvaient tous les pays impérialistes, y compris les États-Unis et le Japon,
hein,
et qu'ils y avaient même embauché la France y avait même embauché les Tchécoslovaques et les Polonais. Bien. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que, ma foi, après la victoire définitive en 1921, les Russes n'arrêtent pas de faire des ronds de jambes pour montrer aux Occidentaux qu'ils sont prêts à envisager l'avenir sous les mêmes auspices qu'autrefois. Bon, et alors me dira-t-on, tout ça, ça dure, en tout cas, à partir de l'été 1932, il n'y a plus aucun doute. Et d'ailleurs, les Français et les Anglais perçoivent très bien, à l'été 1932, que les Soviétiques, qui officiellement brocardent, depuis le début, brocardent évidemment la paix impérialiste de Versailles, et semblent adhérer à la vision évolutive, si je puis dire, allemande, consistant à balayer les traités de Versailles et de Saint-Germain. En tout cas, sans entrer dans les détails, c'est fini à partir de l'été 32. C'est-à-dire que les Français, les Anglais observent à la loupe, comme tout le monde, ce qui se passe en Union soviétique, d'ailleurs et inversement, et ils remarquent très bien que l'organe de l'Armée rouge fait paraître un article en août 1932 qui atteste que l'Union soviétique officiellement renonce à toute perspective évolutive, c'est-à-dire que l'Union soviétique n'aime pas les résultats de la guerre impérialiste de la Première Guerre mondiale, et je dirais même et ses lendemains, parce que la jeune Russie soviétique a quand même perdu beaucoup de plumes territoriales dans les arrangements de 1919 à 1921, mais l'Union soviétique est prête à oublier momentanément et pour longtemps, en cas d'alliance, les pertes enregistrées et la nécessité de revenir sur cette paix impérialiste, car elle considère que le péril allemand est beaucoup plus grave que celui de la paix impérialiste de Versailles. Et il faut y ajouter quelque chose, que les âmes, les incultes antisoviétiques qui nous servent aujourd'hui d'historiens officiels oublient. Et qui est une donnée extrêmement importante, c'est que depuis 1930, depuis 29-30, et disons plus que jamais depuis 1931, l'Union soviétique s'est, je devrais dire même depuis 1918, puisque le Japon s'est attaché en Sibérie à la coalition anti-soviétique de 1918, l'Union soviétique a un ennemi aussi grave que l'ennemi allemand, qui est l'ennemi japonais. Donc si la France, si l'Allemagne a deux frontières, une occidentale, une orientale, les soviétiques ont aussi deux frontières, une frontière proche de l'Allemagne et une frontière qui ouvre sur le Japon. Hein, c'est-à-dire l'extrême-orient au sud duquel se trouve le Japon, et le Japon ne cache pas ses ambitions. Or, on a, j'ai donné dans les ouvrages dont j'ai parlé, et puis dans un article qui paraîtra à partir de septembre d'ailleurs dans divers endroits, j'ai donné là-dessus les coordonnées, parce qu'il y a des travaux là-dessus, très sérieux, je pense en particulier au travail de Jonathan Aslam sur les rapports entre l'Union soviétique et le Japon, qui montre que le péril japonais a été un péril mortel jusqu'en 38-39. Il faut attendre les deux victoires de 38 et 39, donc au sud de la Sibérie, enfin en Mandchourie. Il faut que le Japon a attaqué depuis 1931, avant 1937 de s'en prendre à la totalité de la Chine. Il faut attendre 38-39 pour que l'Union soviétique se sente un peu rassurée sur le front japonais, qui est une donnée majeure pour elle. Ne pas tenir compte de ce facteur japonais serait aussi idiot que de négliger la question de l'alliance de revers. Hein, c'est-à-dire qu'il y a deux fronts. Et pour l'Union soviétique, alors, la question, elle ne se pose pas de savoir si on doit diviser les fronts seulement. C'est que si elle a toute l'Allemagne et si elle a tout le Japon, ça lui rend quand même la survie difficile. Je le dis parce que c'est une donnée qui n'est pas prise en compte et qui a été une donnée majeure, comme le montrent tous les historiens sérieux, de la réflexion stratégique de l'Union soviétique.
Et qui est concrétisé par le pacte anticominterne, c'est-à-dire la
absolument, impérialisme. Absolument, par le pacte anticominterne, qui matérialise ce double danger. Je ne parle même pas de tous ceux qui s'y sont agrégés, après, l'Italie.
Mais les deux initiateurs, c'est bien l'Allemagne.
Voilà, c'est l'Allemagne et le Japon, et c'est réaffirmé en 1936, et il faut que l'armée soviétique, que l'armée rouge, qui d'ailleurs a été beaucoup moins frappée pour sa partie orientale. L'armée rouge de l'Est n'a pas connu le niveau de trahison de l'armée rouge occidentale avec Tukhachevski, et il faut attendre donc cette administration de supériorité militaire soviétique écrasante, et d'ailleurs qui matérialise la première grande victoire de Joukov en 1939. Il faut attendre ça pour que l'inquiétude japonaise soit levée. Il reste l'inquiétude allemande.
Et ça a lieu juste au moment de notre
fin. Ah ben bah, absolument. C'est août-septembre.
Voilà, c'est hein.
Le combat de Harkin-Kohol se tient en août-septembre. Hein. La victoire est acquise vers la mi-septembre, enfin le début septembre, c'est-à-dire trois semaines après le pacte germano-soviétique. Et donc, je reviens à l'aspect allemand des choses, c'est-à-dire qu'en 1932, ce que l'Union soviétique n'a jamais raconté publiquement, qu'elle sait bien sûr comme tout le monde, il y a eu un réarmement clandestin allemand considérable, qu'on a d'autant plus laissé faire qu'il était extrêmement rémunérateur, car rien n'a été plus rémunérateur dans l'entre-deux-guerres que de financer le réarmement allemand, qui a été financé par l'ensemble du capital des pays impérialistes, États-Unis compris, jusqu'à la période hitlérienne comprise, puisque qu'est-ce que vous voulez faire pour résister à une opération rémunératrice? Rien. Bon. Par conséquent, quand l'organe central de l'armée rouge dit que fait un article sur les armements de l'Allemagne, et explique que l'Allemagne a réarmé clandestinement, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Français et les Anglais font l'analyse commune que l'Union soviétique ne parlera plus jamais des traités de 1919-1920 et que, pour elle, alors que se dessine de manière sûre l'avenue des Hitlériens au pouvoir, c'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier quand on ne parle que d'Hitler, le pacte qu'a conclu le grand capital financier allemand avec les plus décidés dans l'aventure impérialiste de manière définitive, et ce d'ailleurs avec l'aval du capital financier international, car la solution hitlérienne a été avalisée par la Banque des règlements internationaux, y compris les Français. Ça signifie donc que en 1932-33, tout le monde sait à Londres, tout le monde sait à Paris que l'Union soviétique redoute non seulement l'arrivée des Hitlériens au pouvoir, mais ce que ça signifie, c'est-à-dire la guerre et notamment la perte de l'Ukraine. Puisque l'Ukraine a été une place forte, comme les pays baltes, de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, que c'est l'Allemagne qui finance le mouvement dit nationaliste ukrainien, qui est nationaliste à la manière des nationalistes dépendants des pays étrangers, avant 14, et inutile de dire avec un rythme particulièrement intensif à partir de 1933, et par conséquent, à partir de ce moment-là, c'est clair. Pour les observateurs français, et j'en ai donné de très nombreux signes, et je ne suis pas toute seule, puisque des historiens anglophones ont fait l'histoire des rapports germano-soviétiques, un petit peu moins l'histoire d'ailleurs des rapports, et pour certains, je pense à Michael Carley, l'analyse des rapports tripartites entre l'Union soviétique, la France et l'Angleterre, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Staline et l'Union soviétique veulent rétablir l'alliance tripartite. Ça ne fait plus un doute. Et à partir de là, les observateurs militaires et civils, c'est-à-dire les attachés militaires et les ambassadeurs, envoient, je le répète, j'insiste, de fin 1932, jusqu'à jusqu'au 23 août 1939, et au-delà, j'y insiste, et au-delà, des courriers qui disent la chose suivante, pas au-delà, c'est-à-dire au-delà partiellement. Au-delà, ils disent, oui, l'Union soviétique n'a pas du tout renoncé à l'idée d'une alliance tripartite. Mais, avant le 23 août, quelle est leur analyse? C'est que l'Union soviétique ne peut se sortir de la situation militaire dans laquelle elle est, c'est-à-dire celle d'un péril d'attaque allemande. Je le rappelle, l'Allemagne est encore un pays plus puissant que l'Union soviétique. L'Allemagne est à ce moment-là la deuxième économie du monde. C'est-à-dire que l'Allemagne a une supériorité encore sur l'Union soviétique. Et donc l'analyse, c'est que l'Union soviétique ne peut s'en sortir qu'avec une alliance défensive automatique du type de celle de 1914. Je te soutiens, tu me défends. Et que si elle n'a pas cette alliance, elle est obligée de subir la totalité des divisions allemandes sur les Rhins et qu'elle fera tout pour gagner du temps. Et les premières analyses de 32-33, j'en ai fourni plusieurs dans le choix de la défaite, atteste de manière absolument formelle que soit l'Union soviétique obtiendra cette alliance tripartite dans les termes de 1914, soit elle conclura un compromis avec l'Allemagne pour éviter de subir seule l'assaut allemand. Alors, on comprend bien d'emblée que je n'ai pas besoin de développer beaucoup sur la chronologie suivante, bien que la chronologie suivante soit fort importante, à partir du moment où cette alliance de revers est souhaitée mais pas obtenue. C'est-à-dire que cette affirmation, 1933, renouvelée, je le répète, particulièrement à chaque étape où l'Union soviétique a pris des claques, et même plus que des claques, des coups de balai, des coups de bâton, elle sera répétée à chaque fois, elle ne sera jamais entendue, et évidemment, cette intervention permanente des représentants civils et militaires des grandes puissances éventuellement signataires, c'est-à-dire de la France et de l'Angleterre, est totalement antagonique avec ce qui est encore aujourd'hui présenté comme la réalité historique et qui a d'ailleurs été entonné par cet immense menteur, comme tous les gens de son espèce, c'est-à-dire Winston Churchill, qui a quand même osé dire dans ses mémoires publiées en 1948 que le pacte germano-soviétique est tombé, a-t-il dit, sur nous comme un coup de tonnerre, vraiment tout à fait inattendu. Naturellement, il mentait comme un arracheur de dents, comme d'habitude, et d'ailleurs il l'a lui-même quasiment avoué, puisque début octobre 1939, il a prononcé un discours radiophonique dans lequel il expliquait que, je dis bien octobre 1939, dans lequel il expliquait que dans la défense des pays baltes, l'Union soviétique prenait une position anti-allemande et disait-il, oui, nous aurions mieux aimé que cela se fît avec le soutien soviétique de la Pologne, on y reviendra, mais cependant, nous avons intérêt à ce que l'Union soviétique l'emporte sur l'Allemagne. Nous avons intérêt à ce que l'Union soviétique l'emporte sur l'Allemagne. Eh bien, ça ne se voyait pas.
Parce qu'il y avait aussi des gens comme Laval qui allaient signer des accords à Moscou.
Oui, j'allais parler tout de suite, évidemment, des grandes étapes. Alors, je laisse tomber 33-39, 33-35, parce que... Mais parlons-en, justement, de ces étapes. En particulier, le fameux pacte franco-soviétique du 2 mai 1935. Alors, c'est très simple, le très réactionnaire, très pro-américain, mais qui n'osait pas être aussi anti-soviétique qu'on ose l'être aujourd'hui, historien Jean-Baptiste Durosel, dans son excellent ouvrage sur la lamentable politique extérieure française, de 1932 à 1939, qui reste encore un ouvrage de référence, disait que ça avait été un chef-d'œuvre du Galimatia. C'est-à-dire un texte, renvoie là encore à mes travaux et à ma bibliographie, c'est-à-dire un texte fait pour ne jamais être applicable, et à propos duquel les soviétiques avaient naturellement demandé, c'était bien le minimum, c'est ce qu'ils avaient encore demandé à l'époque de la farce de Moscou, que l'essentiel fût assuré, c'est-à-dire la conclusion d'un pacte militaire, car contre un ennemi militaire, il faut assurer une alliance militaire. Et donc, Laval, quand il est venu à Moscou, parce que le traité a d'abord été signé le 2 mai, et puis dans les deux semaines qui ont suivi, après être passé par la Pologne en des termes fort anti-soviétiques, car c'était tout un programme que de passer par la Pologne avant de passer par Moscou, hein, Laval arrive à Moscou et à la mi-mai, le 16 mai 1935, promet à Staline que, en effet, le pacte sera complétée par une alliance militaire. Elle n'est jamais venue.
Bien sûr.
Elle n'est jamais venue car la haine des financiers de l'Union soviétique était grandiose. La haine des militaires était fulminante. Comme disait très bien le journaliste très réactionnaire et très pertinent Pertinax, on avait là une série d'émigrés de Koblenz pour lesquels Hitler et Mussolini étaient le summum de la civilisation occidentale et qui avaient une détestation de l'URSS qu'on ne peut même pas imaginer et que j'ai décrite d'ailleurs dans Le choix de la défaite dans ces termes mêmes, c'est-à-dire les idioties monstrueuses de tous nos militaires qui sont allés faire des stages en Union soviétique, parce que gentiment l'Union soviétique a accueilli les Français. Elle les a accueillis pour ne prendre que des Orions, parce que ces militaires passaient leur temps à dire que « Oh là là, on comprend bien que ces crétins de soviétiques n'arriveraient jamais à rien, alors que l'armée française était... si pertinente, si compétente, etc. Et alors, ils ne supportaient particulièrement pas que, disait l'un des rapports, ils usent devant eux des généraux qui avaient été pour certains laveurs de vaisselle sur un bateau. Mon Dieu, quelle horreur, en effet! Les nôtres héritiers de barons étaient nettement meilleurs, comme il a été démontré en mai-juin 1940.
Tu fais référence à Koblenz, parce que je veux rappeler pour les auditeurs ce que c'est les immigrés, donc c'est les aristocrates français.
Qui dès 89,
Et donc on a une double détestation des révolutions.
Oui, absolument.
La française et
absolument,
la soviétique,
voilà.
Qui sont mises dans le même bain.
Voilà, et comme on le sait d'ailleurs, ça n'a pas cessé depuis.
Oui, effectivement.
Et par conséquent, alors il faut le dire, le pacte franco-soviétique, qui est un pur chiffon de papier, mitonné par Alexandre Léger, le secrétaire général du Quai, donc en fait le véritable personnage central de 33 à 39.
Appelons-le par son autre nom.
Oui, c'est-à-dire, il était sans doute plus compétent en Saint-John Perse comme poète, que, en tout cas, je dirais plus utile à la culture de son pays qu'à la politique extérieure de son pays. Et donc, Alexis Léger, Saint-John Perse, dont on voudrait aujourd'hui faire une sorte de résistant 39-40, qui n'est même pas un résistant de pacotille, s'est arrangé pour rédiger ce traité creux. C'est aussi lui qui a totalement rédigé le pacte tchéco-soviétique, je dis bien entièrement rédigé, en lui faisant emprunter les mêmes caractéristiques que le pacte franco-soviétique, c'est-à-dire celle d'être inapplicable et surtout pas prolongée par un accord militaire. C'est-à-dire que, il faut le savoir, la France est le tuteur et le guide de la Tchécoslovaquie dans des conditions qui ont assuré l'exécution de la Tchécoslovaquie. Parce que les dirigeants de la Tchécoslovaquie ont été incapables de résister, ils étaient entièrement gavés par le capital français et guidés par les dirigeants politiques français et incapables de montrer la résolution que leur peuple a montré, mais qui, dans les circonstances générales, n'a abouti à rien. Donc, le pacte tchéco-soviétique, il faut rappeler que l'Union soviétique n'a pas de frontière commune avec l'Allemagne. Que donc, pour combattre l'Allemagne, elle a besoin d'alliés dans sa zone, dans sa frontière orientale. Hein, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, hein, toute cette zone d'ailleurs, toute cette zone ukrainienne, parce que l'Ukraine, elle est quand même subdivisée en états d'éléments, et que donc l'Union soviétique, elle, cette alliance était vitale pour elle. Elle a été entièrement sabotée par la France, qui depuis Belle Lurette avait décidé de sacrifier son allié. J'ai expliqué dans le choix de la défaite, j'ai pas le temps ici, mais il faut bien le savoir, l'histoire du pacte de non-agression germano-soviétique, il a pour pendant, je dirais même pour explication centrale, et on pourrait faire la même chose pour l'Angleterre, et des auteurs anglophones l'ont fait, il a pour pendant exact l'histoire française du sabotage de l'alliance tripartite et l'histoire anglaise du sabotage de l'alliance tripartite. Mais l'allié privilégié de la Tchécoslovaquie, c'est la France. C'est pas l'Angleterre. Je rappelle quand même qu'en 1935, très peu de temps, alors au moment même où la France signe ce pacte franco-soviétique nul et vide, le réarmement officiel allemand est proclamé, qui ne fait scier ni les Anglais ni les Français, mis à part des petites déclarations sans aucune portée. Et je veux rappeler qu'en juin 1935, l'Angleterre conclut avec l'Allemagne un traité naval qui viole ouvertement Versailles et qui autorise l'Allemagne à avoir une marine de guerre égale au tiers de la marine britannique. Ce tiers est exclusivement destiné à faire la Baltique une mer allemande, c'est-à-dire à permettre à l'Allemagne d'attaquer par la mer la jeune Union soviétique et l'ensemble de ses frontières et des pays qui ont été séparés d'elle par les impérialismes étrangers, notamment, bien sûr, les États baltes. Bien. Voilà. Sans parler de la Finlande, qui, je le rappelle quand même, à tous usages, était une partie intégrante de l'Empire russe. C'est quand même un pays débonnaire qui a laissé partir tellement, et pendant si longtemps, tellement de ses éléments composants. Cette Union soviétique à laquelle on reproche quel culot tout de même d'avoir récupéré la Crimée sur laquelle se trouve quand même sa flotte vers le sud, en voilà une idée et une revendication insupportable. Donc, un peu plus d'un mois après avoir signé le traité franco-soviétique, la France n'a rien à dire sur le réarmement officiel de l'Allemagne le 11 juin, et personne n'a rien à dire non plus sur le pacte anglo-allemand. Parce que les pactes anglo-allemands, franco-allemands, ça compte pas. Bon, alors, autre étape, la guerre d'Espagne, par laquelle les puissances occidentales, États-Unis compris, ont décidé de liquider l'Espagne républicaine. Et ont été d'ailleurs, il faut le savoir, l'historien russe Khlevniuk, avant de passer au comité Hoover et de lui consacrer ses travaux sur évident financement, faisait remarquer dans un ouvrage de 2000, dans une contribution à un ouvrage de 2000, que c'était la guerre d'Espagne, avec les revers que l'Union soviétique avait subis et la capacité de l'impérialisme allemand à semer le trouble dans le camp républicain, qui avait provoqué la Grande Terreur. Car la Grande Terreur n'est pas un effet de la folie de Staline.
Et à terme, l'URSS.
Non. La Grande Terreur est une question de politique extérieure. C'est une question intérieure de politique extérieure. Il y a eu grande terreur parce que il y a eu une telle avancée des projets d'incursion contre l'Union soviétique à partir de la guerre d'Espagne que ça a été un élément majeur de la crise de 36 à 39, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la grande terreur, c'est-à-dire des grands procès, je le rappelle, qui ont mis en cause 75 personnes. Et on trouve que 75 personnes traduites en justice, quand on voit le niveau de trahison qui a été atteint en France, c'est beaucoup pour un pays comme l'Union soviétique qui avait été attaqué, je dirais, dans ses frontières, dans son fonctionnement, et qui avait été un objectif de liquidation ouvert de tous les pays impérialistes. Moi, je trouve que finalement, c'est quand même assez modeste.
Donc, comme champ d'essai de l'armée du Reich. Et du
alors, je dois dire que, comme nous avons toujours des belles archives que les historiens français n'aiment pas, que moi j'aime, il suffit de lire cet extraordinaire texte du maître des blindés allemands, c'est-à-dire von Reichenau, qui a été aussi le maître de l'incursion, de l'attaque contre l'Union soviétique, mais enfin qui s'est fait dégommer en 1942, donc lui qui n'a pas pu appartenir à la Bundeswehr. Reichenau fait dans un texte dont je ne connais pas l'origine, parce que je ne connais que la traduction, mais c'est le texte complet qui a été traduit en 1939 et qui est forcément un texte postérieur à l'Anschluss, a fait une présentation de la guerre d'Espagne, je dirais, qui résume tous les véritables objectifs de la guerre d'Espagne. Je rappelle que sur la guerre d'Espagne, on nous casse les oreilles depuis je ne sais combien de temps avec les méchants communistes qui attaquent, les anarchistes qui sont très... Les méchants communistes sont très vilains, André Marty, les communistes qui s'en prennent à la révolution, parce que c'est curieux, les antirévolutionnaires adorent la révolution présumée anarchiste. Je rappelle que l'objectif de l'Espagne, c'est pas ça. L'objectif de l'Espagne, il est double pour le Reich et pour l'Italie. Mais l'Italie est un impérialisme secondaire, même si elle a de grandes ambitions. C'est qu'il s'agit d'une part de prendre accès vers les empires français et anglais, et d'autre part de piquer les métaux espagnols, et notamment les pyrites de fer et pyrites de cuivre. Voilà. C'est ça l'objectif. Et je recommande vivement à nos auditeurs de lire l'énorme ouvrage d'archives publiées allemandes sur la guerre d'Espagne. Ils n'oseront plus jamais, quand ils l'auront lu, dire que la guerre d'Espagne, c'est un enjeu entre les méchants staliniens et les braves anarchistes. Ils n'oseront plus jamais. Parce que là, on a du dur. Là, on voit ce qui était en cause en Espagne, c'est-à-dire la sécurité de l'Union soviétique, la sécurité de la France, le maintien des empires français et anglais, puisque Reichenau explique dans un texte admirable comment ces voyous de français et d'anglais, ces imbéciles, parce qu'ils les traitent de crétins, ont laissé l'Allemagne, par antisoviétisme, réaliser en temps réel la préparation à la guerre mondiale qu'elle n'avait pas pu faire avant 1914, et comment ces andouilles lui ont livré la clé de leur empire. Parce que l'Espagne, c'est Gibraltar, c'est l'avancée vers les empires, c'est l'avancée vers l'Afrique. Voilà l'objectif de la guerre d'Espagne. Et voilà pourquoi l'Union soviétique, dans la guerre d'Espagne, a défendu, bien entendu, ses propres intérêts défensifs, c'est-à-dire a combattu contre l'impérialisme allemand, mais comment elle a défendu les frontières de la France. Et d'ailleurs, je dois le dire, je viens de lire un peu en retard, je viens de lire les admirables articles d'Aragon dans Ce Soir, et en particulier, évidemment, l'année 1900, la fin de 38 et l'année 1939, où il explique l'abandon français de l'Espagne dans des termes déchirants, et où il comprend l'enjeu, c'est-à-dire que la France se perd ce qu'il appelle sa troisième frontière, c'est-à-dire fait entrer dans la bergerie de la guerre ce Franco qui est un allié de l'impérialisme allemand et qui ira d'ailleurs en octobre 1940, au moment où où Vichy conclut Montoir, qui s'engage à apporter son aide militaire à l'Allemagne, parce qu'il la croit à l'époque susceptible de victoire. Il faut bien comprendre ce qu'a été l'enjeu espagnol. Ce qu'a été l'enjeu espagnol, c'est de la part des Français et des Anglais une abdication totale face à la République qui n'a jamais touché un de leurs investissements. Ils ont entièrement assuré la victoire de l'Allemagne et de l'Italie, dans des conditions d'ailleurs dont j'ai rendu compte dans le chapitre 7 du choix de la défaite, les auditeurs pourront aller vérifier. Espagne. Plus d'avanies que l'Union soviétique n'a enregistré sur l'Espagne, c'est impossible. Alors, à ce moment-là, j'en ai oublié d'ailleurs un bout quand j'ai parlé de 1935. Il y a eu un moment où on a pu penser qu'un ministre français avait une certaine résolution pour rétablir l'alliance de revers, mais grosso modo, ça a duré même pas 6 mois.
Il en est mort.
C'est Bartou, et ça lui a coûté la vie, puisque ce sont les Allemands qui l'ont liquidé. Là encore, j'ai raconté dans quelles circonstances et avec quelle complicité, la complicité de Laval, puisque les Allemands voulaient liquider Bartou, ce qu'ils ont fait le 9 octobre 1934, et ils ont mis à la place Laval.
Le lendemain.
Voilà, le lendemain. Donc l'Espagne, et j'en passe, parce que pendant l'Espagne, il se passe plein de choses. Hein, bon, parce que ça dure quand même jusqu'en janvier-février 1939. Et évidemment, entre deux, quand même, en 1934, du temps de Bartou, ou je dirais sur fond de soutien de Bartou, les Soviétiques sont entrés à la Société des Nations, l'affaire commune de Paris et de Londres. Et, ma foi, ça a permis aux Soviétiques d'avoir un peu d'antenne et des voyages à Genève, mais ça n'a servi qu'à ça. Et d'ailleurs, l'Union Soviétique subit tellement d'avanies pendant la guerre d'Espagne qu'elle fait comprendre que ça ne peut pas durer. Pendant la guerre d'Espagne, il y a l'affaire Tukhachevski. Et l'affaire Tukhachevski... en mai-juin 1937, mais que toutes les capitales connaissent depuis 1936, c'est un terrible coup pour l'Union soviétique. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'état-major occidental est pourri au niveau supérieur. Alors on trouve ça extraordinaire, c'est pas vrai, Tukhachevski, il a été réhabilité par Khrouchtchev, ça prouve quoi, hein? Nous avons un état-major qui est impliqué dans le complot contre la République et dans la trahison territoriale, je dirais pour son immense majorité. Pour son immense majorité. Y compris Gamelin, qui a été liquidé par Reynaud le 18 mai 1940, mais qui avait entièrement participé au soutien à Franco, au complot contre la République, etc. Donc c'est extraordinaire qu'un pays si attaqué ait subi une telle pression que celle de l'Allemagne sur la tête de son armée occidentale. Pas du tout, parce que nous on a fait la même chose. Et nous étions tout de même un pays globalement, bien qu'exposé bien sûr, un pays moins exposé que l'Union soviétique. Alors, elle doit enregistrer ça, et c'est Staline qui prend tous les coups, alors que tout le monde sait de quoi il s'agit. J'ai traité l'affaire Tukhachevski. C'est bien simple, hein. J'ai épluché les archives militaires françaises. Hein. Celui qui veut venir me porter la contradiction, je l'attends encore. Première édition 2006, j'attends
silence
encore contradiction.
Total.
Voilà, silence total, enterrement, mais pas contestation. Entre-temps, bien entendu, la pauvre Tchécoslovaquie se fait tailler en pièces et... En novembre 1917, je dis bien le 29 novembre 1917, se noue à Londres de manière définitive l'accord entre Paris et Londres sur le sacrifice total de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire l'adhésion à toutes les revendications allemandes qui sont théoriquement les revendications du parti des Sudètes de Henlein, qui est tout simplement un chien poussant du Reich tarifé à tant le mois, et décider non seulement la liquidation par la France de son allié chéri présenté comme la clé de l'alliance de revers, mais bien entendu l'affaire de l'Anschluss est annoncée, je dirais, comme une pure formalité. Donc, novembre 37, la Tchécoslovaquie est condamnée à mort, la Tchécoslovaquie qui est vitale pour l'Union soviétique, tellement vitale qu'en 1936, après la non-réaction des Occidentaux à la remilitarisation de la Rhénanie, là c'est pas les frontières de l'Union soviétique, c'est les frontières de la France, hein, l'Union soviétique va supplier tous les jours Prague en disant écoutez, ce traité tchéco-soviétique ne vaut rien, le nôtre avec la France ne vaut rien, passons à un traité tchéco-soviétique bilatéral, sans condition française, puisque évidemment l'autre avait été rédigé de telle sorte que si la France n'était pas d'accord, de toute façon il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas d'alliance militaire, il n'y avait rien. Hein? Et je rappelle que Schneider avait accepté toutes les conditions des grands groupes métallurgiques, donc groupe des grands groupes métallurgiques français, interdisant l'Union soviétique la moindre pénétration, le moindre accord militaire ou économico-militaire, avions, métallurgie, etc., avec la Tchécoslovaquie. Donc, on peut regarder par tous les ports, par tous les bouts, on trouve toujours le capital financier en tête d'une décision. Donc, l'Anschluss se passe. Nous sommes donc le 12 mars 1938. Anschluss, je l'ai montré dans le choix de la... le Vatican, l'Europe et le Reich, qui était d'ailleurs tout près, dès mars 1926, dans le cadre d'un traité français, austro-allemand, connu immédiatement par la France et par toutes les puissances, mais vis-à-vis de quoi la France n'a rien eu à dire. Et donc, la fameuse idole de Madame Sabine Dulin qui nous explique que voilà, c'est le seul ministre des Affaires étrangères soviétique cultivé, connaissant les langues, à côté de ce crétin de Molotov qui lui valut quelque chose. Évidemment, il les adore à partir du moment où ils sont plus là. Et donc, le brave Litvinov, très occidentaliste, il faut le dire, et même quelquefois au-delà du nécessaire, et particulièrement d'ailleurs quand il a été, parce qu'il lui, il n'a pas subi de dommages du méchant Staline, même quand il a été limogé, il est devenu, ce qui n'était pas rien comme fonction, ambassadeur de l'Union soviétique aux États-Unis pendant la guerre, hein, ce qui n'est pas rien tout de même. Hein. Et je trouve à lire les archives américaines qui s'y est montré quelquefois un petit peu trop compréhensif pour les États-Unis. Bon, bref, qu'est-ce qu'il dit à Genève? Il dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Vous avez tout enregistré. L'Espagne, vous liquidez l'Espagne. Vous avez laissé le Japon faire, attaquer la Mandchourie, attaquer la Chine. Vous avez fait l'Anschluss. Si vous lâchez la Tchécoslovaquie, nous ne répondons plus de rien. Et c'est ce qui se passe. La Tchécoslovaquie est lâchée dans les conditions qu'on connaît à Munich. Des conditions ahurissantes. Je recommande aux éditeurs non seulement évidemment de se documenter sur les circonstances exactes du lâchage de la Tchécoslovaquie préparé, je l'ai dit, plus de dix ans avant, et je recommande, je l'ai dit, la lecture d'Aragon tant elle montre à quel point on avait avec, il faut le dire, les communistes français, des gens qui, bien informés, avec de solides principes internationalistes et patriotiques, étaient capables d'analyser une situation, puisque en temps réel, ils l'ont analysée en lâchant la Tchécoslovaquie, la France lâchait, c'était la dernière étape, ou l'avant-dernière étape, si jamais l'alliance tripartite était conclue, ce qui était impossible, mais disons que c'était au minimum l'avant-dernière étape de la liquidation de la France, et je renvoie à cet extraordinaire texte d'un collaborateur de Gamelin, c'est dire le niveau de lucidité de nos militaires du 15 septembre 1938 qui explique que si on lâche la Tchécoslovaquie, eh bien, c'en est terminé la France, c'est-à-dire que la France allait subir une invasion et un démembrement et un démantèlement qui lui laisserait juste la possibilité d'avoir un gouvernement fantoche. Eh bien, on peut dire tout de même que le militaire qui a écrit ça s'est fait plaisir, mais que, quand même, il a eu raison. Alors dira-t-on, oh, bah oui, mais, à partir de mars 39, tout le monde comprend. Les troupes allemandes envahissent la Tchécoslovaquie. Le lendemain même, l'Union soviétique vient dire, bon, alors on l'a conclu, cette alliance, on met ensemble autour d'une table toutes les puissances occidentales, orientales, qui sont menacées. Eh bien, c'est l'histoire d'un sabotage qui a abouti à ce que j'appelle la farce de Moscou, et que d'autres que moi ont décrit, que moi j'ai décrit dans le choix de la défaite, les archives françaises, les archives de Vincennes, les archives militaires, et dans de Munich à Vichy, les archives anglaises, nous aboutissons évidemment à une convergence totale, c'est-à-dire que nous sommes en mars 1939. L'Union soviétique propose une alliance militaire immédiate qui peut être conclue dans la semaine. J'ai décrit longuement ce qu'il en avait été de mars à déjà juillet, mars, comptons, avril, mai, juin, juillet, 4 mois, pour décider qu'on va envoyer une mission militaire à Moscou. Qu'on met encore 3 semaines à réunir. Qu'on met 3 semaines à réunir dans des conditions de grotesque quasiment à leur apogée. J'ai raconté dans le choix de la défaite ou ailleurs, c'est grotesque. On avait même envisagé d'envoyer des... Parce que nos délégués ne parlaient pas le russe quand même, puis quoi encore. Nos délégués ne parlaient pas le russe et par conséquent d'envoyer des Russes blancs comme interprètes, lesquels Russes blancs avaient passé leur temps depuis 1918 ou 1919 ou 1920 à comploter contre leur pays, d'ailleurs de plus en plus avec les Allemands, parce que la France n'était pas assez efficace. Et par conséquent, les pseudo-négociations qui ont présidé à la farce de Moscou sont lunaires. On demande à l'Union soviétique de garantir les frontières des Pays-Bas, de la Suisse et de la Belgique, qui ne l'ont même pas encore reconnu comme État. Bon, et puis on lui demande de garantir tout et n'importe quoi, et puis quand elle dit, ben, garantissez-moi quand même que si les États baltes sont attaqués, vous nous défendez. Ah, mais non, lui dit-on, sûrement pas, pour que vous bolchevisiez les États baltes. Et puis, dit l'Union soviétique, mais moi, comment voulez-vous que j'entre en Allemagne? Il n'y a plus de Tchécoslovaquie, la question ne se pose pas. Le seul moyen que j'ai d'entrer en Allemagne, c'est de passer par la Pologne et la Roumanie. Regardez que les auditeurs regardent une carte, hein, puisqu'il n'y a pas de frontière commune. Ah, mais non, disent la France et l'Angleterre, qui n'ont pas jugé digne de convoquer la Tchécoslovaquie pour la faire mettre en morceaux. Ah, mais non, parce que la Pologne et la Roumanie ne veulent pas. Ah bon ? Alors si la Pologne et la Roumanie ne veulent pas, eh bien, on lira et on verra comment les choses se sont faites. Alors, la Pologne était atroce, abominable, mais on le savait, je dirais, depuis l'été 1918, où Pilsudski était encore pro-autrichien. Été 1918, hein, le Pilsudski à qui on a fait un État polonais, disons-le. Eh bien, le Pilsudski, ou son à partir de 1935, après sa mort en mai 1935, le bon Pilsudski, qui avait eu pour successeur son collaborateur Beck, avait eu encore pire que lui avec Beck. Bon, Beck, il avait 200 millions d'argent allemand dans les banques allemandes. Alors c'est dire, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. La Pologne, comme aujourd'hui d'ailleurs, a préparé sa liquidation avec un allant et une frénésie qui l'avait fait participer à la prise de Teschen, puisque sans avoir à déployer sa nulle armée, comme l'a prouvé son attaque, ça a duré un jour, hein. Pas 48 heures en fait, 24 heures. La Pologne, dont nos dirigeants politiques et militaires juraient officiellement qu'elle tiendrait, alors que in petto, enfin entre eux, ils avouaient qu'elle ne tiendrait même pas une semaine. D'ailleurs, c'est bien, ça a été avoué à Moscou, où l'émissaire britannique a fait une gaffe pendant les 5 jours nouveaux de perte de temps, parce qu'au lieu de prendre l'avion pour aller à Moscou, ils ont pris un navire marchand poussif, le City of Exeter, qui a permis de n'arriver que le 10 août, alors que la Pologne était entièrement encerclée par les troupes allemandes. Drax a avoué que la Pologne ne tiendrait même pas une semaine. Et alors, il a été très gêné, parce que pendant tout le voyage, on lui avait dit « Surtout, surtout, ne le dites pas !» Bien. Pendant cette farce, les interlocuteurs de très haut rang, d'une part, le ministre de la guerre, Vorochilov, d'autre part, le chef d'état-major, Chaposnikov, héros de la Deuxième Guerre mondiale, reçoivent 2 invités que personne ne connaît et qu'on n'a même pas munis de plein pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir pour signer quoi que ce soit. Et quand Vorochilov leur dit « Voilà, je vous montre mes pleins pouvoirs, voilà, ils sont là, sur la table, montrez les vôtres. » Il n'y en a pas. Et quand Chaposnikov arrive avec les 3 hypothèses militaires, les plans militaires, et les montre sur la table, et qu'il demande aux Français, aux Anglais s'ils en ont, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, et depuis 1936, l'Angleterre a garanti à la France qu'elle lui enverrait une division. Une division. Donc, que disent les Soviétiques ? Ce que l'émissaire français atteste dans son rapport sur sa terrible visite, c'est-à-dire ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, on était demandeurs, on est arrivé les mains vides, ils n'avaient pas d'autre solution que de faire ce qu'ils ont fait. Il n'empêche qu'au lendemain de la signature du pacte germano-soviétique auxquels s'employaient les Allemands depuis plusieurs semaines, en particulier depuis juillet, c'est-à-dire en constatant avec délice que cette fameuse négociation n'avancerait jamais. Nous avons la preuve qui a été attestée notamment par Jeffrey Roberts sur la base des archives soviétiques, que Molotov, qui avait remplacé le 3 mai dans le cadre de ces négociations pourries, ces premières négociations pourries qui avaient remplacé Litvinov, que Molotov n'a pas répondu, n'a pas montré le moindre intérêt pour les propositions allemandes avant le 11 août. Or, le 11 août, tout était déjà consommé. Et d'ailleurs, notre ambassade, notre attaché militaire et une série d'autres militaires, et même notre ambassadeur à Moscou, notre ambassadeur de France à Moscou, Najar, on dit les soviétiques ont fait comme prévu, voilà ce qu'on prévoit depuis 6 ans, mais ça ne ferme pas la porte. La porte n'a été fermée que par les Français et les Anglais. Tout le monde le savait. Toutes les archives sont catégoriques. Eh bien, 80 ans après, nous allons avoir droit, très vraisemblablement, l'argument habituel, et on fera réfléchir les auditeurs en leur rappelant que Munich, qui est sans arrêt invoqué à chaque fois qu'il faut accabler la Russie ces derniers temps, que Munich ne fait jamais l'objet d'un rappel à quelque anniversaire décennal que ce soit, tant le minimum de connaissances sur Munich alerterait les Français recrues d'imbécillité de propagande sur les mensonges qu'on leur débite.
Grand merci. Grand merci. Voilà une bonne façon de conclure, effectivement, et on est en plein dans cette actualité qui va se déverser sur les ondes. Donc, merci d'avoir contribué à cette contre-offensive.
Voilà, à la prochaine fois.
À la prochaine
fois. Au revoir.
Voilà, alors il y aura une prochaine fois sur les ondes de Radio Galère, puisque vous pourrez réécouter samedi à partir de 14h l'enregistrement que nous avions déjà programmé et diffusé au mois d'août d'Annie au sujet de son nouveau livre, aujourd'hui en librairie, qui s'appelle « La non-épuration en France », où là, dès le titre, elle annonce la couleur « Il n'y a pas eu d'épuration en France », elle le démontre. Merci de votre attention, merci Sidi, à très bientôt sur les ondes de Radio Galère avec Comaguerre.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.